Le journal Frédéric Beniada, bonjour.
Bonjour à tous. L'Italie commémore aujourd'hui le premier anniversaire de l'effondrement du pont de Gênes, un drame qui allait coûter la vie à 43 personnes. Un an après, la France tire un bilan sur l'état de ses propres ouvrages d'art. Un millier de ponts sont jugés dangereux, mais surveillés de près. Nous ferons le point dans ce journal. En pente douce, le chômage poursuit sa baisse en France pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 ans, Delphine Simon.
Le taux de chômage est de 8,5% de la population active au deuxième trimestre. Baisse très nette chez les jeunes. Les seniors qui décrochent, eux, ont plus de mal à retrouver un emploi.
Toujours au chapitre économique, nous reviendrons sur les inquiétudes des compagnies aériennes françaises. Quasi toutes en proie à d'importantes difficultés financières. Nous en parlerons dans ce journal avec Alain Battisti, il est le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. À l'étranger, les derniers développements de l'affaire Epstein et la sortie aujourd'hui du dernier Tarantino. Il était une fois à Hollywood. Il était une fois la météo, pas très sexy sur le nord, Elodie Calac.
Oui, on a une perturbation qui traverse le nord-ouest avec un petit peu de pluie, du vent, quelques pluies aussi sur la région parisienne en fin d'après-midi, mais pour le moment, on a des éclaircies. Et puis ailleurs du soleil, toujours du vent marqué pour le sud-est. Température en hausse avec 18 à 21 près de la Manche, mais 21 à 32 degrés ailleurs.
Elodie Calac.
France Inter.
Une cérémonie hommage et une minute de silence ce matin à Gênes, tout juste un an après l'effondrement du pont Morandi, un drame qui allait entraîner la mort de 43 personnes, dont 4 Français. Aujourd'hui, le pont a totalement été rasé, mais Gênes n'a toujours pas pansé ses plaies. Antonino Gallofaro.
Un lancer de ballon rappelle les 43 victimes, alors que retentissent dans toute la ville les cloches et les sirènes des navires du port lors d'une minute de silence à 11h36 hors du drame. Les Génois sont réunis sur le chantier du nouveau pont, la même où le Morandi s'était effondré. La messe commémorative vient d'être célébrée dans un hangar à l'ombre d'une pile en construction, la première qui soutiendra la structure imaginée par l'architecte Renzo Piano.
Nathan Guzman, Francia. Vincenzo.
Les noms des victimes ont retenti sur la plaine de la rivière qui coulait sous le pont. C'était des commémorations particulières. Les Génois ont bien assisté à cette messe et à cette commémoration, mais à distance, comme tenu à l'écart, une centaine de mètres les séparaient du hangar. Alors la cérémonie, ils l'ont suivie sur un écran géant où était diffusée Rai Uno, la première chaîne de la télévision publique.
La présence de l'État de Génova avec les massimes.
Cette matinée a par ailleurs permis de mettre de côté la crise politique que vit l'Italie. Le Premier ministre, en fin de course, Giuseppe Conte, a simplement rappelé que l'État restait proche des familles. Pas un mot du pourtant trilocas Matteo Salvini, le chef de la Ligue. Tous étaient comme surveillés par le président de la République, Sergio Mattarella, qui s'est assuré que ce matin au moins, la crise politique reste bien, entre parenthèses. Gênes, Antonino Gallofaro, France Inter.
L'effondrement de ce viaduc autoroutier avait conduit à l'époque les autorités françaises à lancer une vaste enquête sur ses propres ouvrages d'art, avec un constat plutôt alarmant. 30% des 12 000 ponts que compte le réseau national ont besoin de réparation et 7% d'entre eux présentent à terme un risque d'effondrement. Maxime Deps.
Problème avec les ponts pour savoir s'ils sont en bonne santé. Déjà, faudrait-il réussir à les recenser? Personne aujourd'hui n'est capable de dire combien ils sont, déplore Patrick Chaise, sénateur Les Républicains de l'Ain, chargé récemment d'une mission sur la question. Quasi aux doigts mouillés, il estime toutefois que ces ponts pourraient être au nombre de 250 000 en France, dont 1 sur 10 mériterait d'être rénové ou pourrait faire l'objet d'actions de prévention. Alors on ne parle pas de ponts aussi gros que celui de Gênes, mais de petites, voire de très petites structures, essentiellement dont les collectivités locales ne s'estiment souvent pas responsables et qui se détériorent faute d'être entretenues. Le gouvernement avait aussi publié une liste il y a quelques mois d'où il ressortait que deux ponts, l'un dans le Pas-de-Calais, l'autre dans les Bouches-du-Rhône, nécessitaient une intervention urgente. Les travaux sont en cours, assure l'exécutif, tandis que Benoît Signan, député de Gironde et rapporteur du budget infrastructures et transports, fait état d'un réseau qui se dégrade depuis des années et de la nécessité de trouver des nouveaux moyens de financement.
Et parmi ces ponts qui posent problème, le pont Saint-Ladre à Crépy-en-Valois dans l'Oise, un ouvrage vieux de 90 ans, particulièrement délabré. Depuis quelques mois, la circulation y est interdite aux camions de plus de 3,5 tonnes. La SNCF et le conseil départemental de l'Oise se livrent à un véritable bras de fer pour savoir à qui incombe la responsabilité de cet ouvrage d'art. Le maire de Crépy, Bruno Fourtier, ne cache pas son inquiétude.
C'est une peur quotidienne. Des barrières ont été installées de chaque côté du pont pour que les poids lourds ne passent pas, mais régulièrement, ils enfreignent les barrières et passent quand même sur ce pont. Donc effectivement, les Crépinois y pensent régulièrement. Quand vous pensez que le dernier entretien effectué par la SNCF date d'à peu près il y a 30 ans, depuis, il ne s'est rien passé, des blocs de ciment tombent, les garde-corps sont rouillés et certains ne tiennent plus. C'est vraiment un scandale de voir ça. Heureusement, le département de l'Oise nous soutient et va reconstruire le pont. En entendant, la SNCF a une responsabilité depuis la construction, depuis 1929, mais c'est comme ça. Aucune anticipation, aucune prévision claire pour effectuer des entretiens sur ces ponts et des révisions et des changements complets sur ces ponts qui sont installés.
Bruno Fortier, le maire de Crépy-en-Valois. Le taux de chômage a poursuivi sa baisse au deuxième trimestre en France, légère baisse de 0,2%. Il s'établit désormais à 8,5% de la population active, soit 2 400 000 demandeurs d'emploi. Il s'agit du taux de chômage le plus bas depuis 10 ans, un taux de chômage qui diminue également chez les plus de 50 ans, Delphine Simon.
Oui, même si ça reste très compliqué de retrouver un emploi salarié après 50 ans, le taux de chômage des seniors est en fait quasi stable, moins 0,2 points au deuxième trimestre par rapport au premier, idem sur un an. Certes, ce n'est pas de bon augure à l'heure de la réforme des retraites, mais le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises nuance le constat. D'abord, les seniors qui ont un emploi sont incités à rester plus longtemps dans leur entreprise. Vu la réforme des retraites complémentaires Agirc-Arrco, il vaut mieux partir après 63 ans qu'avant, si on veut toucher une retraite complémentaire à taux plein. Et du coup, le taux d'emploi des seniors grimpe de pratiquement plus d'un point sur un an. Ensuite, la pénurie de compétences sur le marché du travail pourrait inciter les PME à recruter à l'avenir plus de seniors, explique François Asselin.
Lorsque vous avez une certaine compétence, une certaine expérience, vous avez de grandes chances de retrouver de l'emploi, quel que soit votre âge. Après, bien évidemment, faut négocier votre niveau de rémunération. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est lorsque vous n'avez pas vraiment de grandes compétences affirmées et que vous êtes avancé dans l'âge, et bien là, effectivement, raccrocher la vie active, c'est très compliqué.
À ce titre, selon lui, la réforme de la formation professionnelle est un enjeu de taille. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, devrait présenter la semaine prochaine de nouvelles mesures lors du Conseil des ministres.
Merci Delphine. Simon, pour les compagnies aériennes françaises, il y a des doutes sur le front de l'emploi. Aigle Azur, en proie à d'importantes difficultés financières, a confirmé hier qu'elle cédait une partie de ses créneaux horaires à Orly, à la low cost espagnole Vueling. C'est ce qui faisait sa valeur, ces créneaux étant très précieux à Orly. Et malheureusement, ce n'est pas la seule compagnie qui va mal, mais l'ensemble du pavillon français qui perd chaque année des parts de marché. Invité de ce journal, Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair. Bonjour Alain Battisti.
Bonjour.
Le constat est très malheureux. Aujourd'hui, quasi aucune compagnie française ne gagne de l'argent. Alors que le trafic aérien augmente dans le monde entier, il y a comme un paradoxe.
Il y a un vrai paradoxe puisque le marché français est un des marchés les plus attractifs d'Europe. 200 millions de passagers cette année, c'est considérable, bien sûr à Paris, mais aussi avec une très belle dynamique sur les aéroports de province. Et malheureusement, les compagnies françaises continuent de perdre des parts de marché. Ça fait maintenant 15 ans que ça dure. Et ce qui est paradoxal, d'autant plus, c'est que le constat a été posé, il a été partagé avec le ministère des Transports. On a pendant presque un an travaillé dans le cadre d'assises du transport aérien où tous les professionnels se sont exprimés et il n'est sorti rien du tout de ces assises. Il en est même sorti une écotaxe, c'est-à-dire une pénalisation de plus de 100 millions d'euros pour les compagnies françaises. C'est absolument incroyable. On a l'impression de non seulement ne pas être entendu, mais maintenant d'être pourchassé.
Mais qu'est-ce qui fait que le transport aérien ne marche pas? Trop de taxes, trop de redevances?
Alors aujourd'hui, il y a deux natures de handicap pour les compagnies françaises. Il y a un niveau de fiscalité globale qui est très élevé en France, tout le monde le sait, et en particulier de fiscalité sur la production. Il y a des impôts de production que payent les compagnies aériennes qui sont trop élevés, qui constituent un vrai handicap. Et puis il y a globalement un coût du travail à cause des charges sociales, des cotisations sociales françaises qui sont très élevées, plus une surréglementation systématique. Et même dans le domaine, et c'est là encore quelque chose d'anormal, dans le domaine de la simplification, qui est quelque chose d'assez partagé avec les pouvoirs publics, aucune des mesures de simplification que nous avons proposées n'ont été adoptées, elles n'avaient aucun impact budgétaire. Donc on est dans une situation invraisemblable, qui ne peut pas durer.
Vous l'avez dit Alain Battisti, l'État vous avait promis lors des assises du transport aérien des mesures, il n'en est rien sorti. Pire, on vous a rajouté l'écotaxe, ça veut dire quoi? Que l'État français ne considère pas le transport aérien comme stratégique? Et est-ce que vous en voulez au gouvernement, à la ministre Elisabeth Borne?
Ben, je crois qu'il y a un tropisme vis-à-vis du ferroviaire. Tout passe par le ferroviaire en France, alors que les avions aujourd'hui ne coûtent rien au budget de l'État. Je voudrais quand même rappeler que la SNCF, c'est 42 milliards de dettes qui vont être payées par le contribuable, c'est-à-dire par chacun des auditeurs, alors que le transport aérien aujourd'hui, il dégage de l'argent. Il dégage de l'argent pour le budget général de l'État. Donc oui, il y a un défaut d'intérêt, et puis surtout, il y a une fausse impression aujourd'hui. C'est 210 millions de passagers cette année. C'est pas un transport de riches, le transport aérien. Aujourd'hui, on trouve sur la plupart des destinations françaises des billets qui sont moins chers que des billets de TGV, des billets d'avion. Donc on est bien sur un transport de masse, simplement. Il y a un effet de, je sais pas, un paradigme qu'il faut changer. Il y a une façon de penser les choses qui doit être revue. Et malheureusement, on n'a pas senti de changement, malgré les assises du transport aérien, qui étaient une belle promesse.
Vous êtes en plus confronté à un bashing autour du transport aérien actuellement, en disant l'avion pollue. À qui la faute ? Vous communiquez mal sur les efforts que fait cette industrie en matière d'environnement ?
Alors, l'industrie, oui, peut-être communique mal, c'est possible. On ne communique mal sur des performances qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, toute activité humaine crée de la pollution, ça on en est conscient. Les compagnies au niveau mondial, alors je dis bien au niveau mondial parce que c'est pas tous les secteurs qui peuvent se mobiliser, ont décidé à travers un accord qui s'appelle Corsia, qui est un accord un peu technique, de réduire l'empreinte carbone avec une stabilisation dès l'année prochaine de l'émission de carbone au niveau mondial. C'est-à-dire que l'évolution à la hausse du transport aérien ne créera pas davantage de pollution parce qu'on compense cette pollution. Et ça, c'est dès 2020, c'est pas des promesses à dans 10 ans ou dans 30 ans. Malgré ça, et malgré le fait qu'aujourd'hui, un avion occupé normalement a une consommation au siège qui est relativement basse, c'est-à-dire qu'en gros, le bilan carbone pour un passager est sensiblement identique à celui d'une voiture de petite cylindrée, eh bien, on véhicule des images fausses en expliquant, par exemple, dans un journal il y a encore quelques jours, qu'on consomme 10 fois plus que la voiture, ce qui est totalement faux aujourd'hui.
Merci Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair. Sur la route à présent, la colère des responsables de Vinci Autoroute face à la recrudescence des accidents impliquant des véhicules d'intervention, deux en quelques jours. Le dernier en date très impressionnant hier après-midi sur l'autoroute A8 près de Sainte-Maximin. Heureusement pas de victimes, le fourgon était vide au moment de l'accident. Trop d'automobilistes sont distraits au volant. Écoutez, Raphaël Martin, il est directeur d'exploitation Vinci Autoroute pour les réseaux Atlantique et Méditerranée.
Les principaux facteurs à risque sont la fatigue qui conduit à la somnolence et à l'hypovigilance. Nous ciblons l'utilisation des smartphones ou tablettes en conduisant jusqu'à la manipulation de l'autoradio en quittant la route des yeux. Nous opérons des opérations de pédagogie et de sensibilisation qui consistent à sensibiliser les utilisateurs à des situations de pause. Il faut prendre la route dans des situations de repos suffisant, en tout cas dans de bonnes conditions physiques. Nous pouvons aller jusqu'à porter plainte pour que des enquêtes puissent être réalisées par la gendarmerie qui détermineront les causes exactes qui auraient pu conduire aux heurts de notre véhicule. Il faut comprendre que notre véhicule, lorsqu'il est en situation d'intervention, il est là pour protéger des usagers qui seraient en panne ou qui auraient subi un accident et puis pour mener des actions de police de la route.
Raphaël Martin, directeur d'exploitation Vinci Autoroute avec Touk Niri Lanto. En quelques télégrammes, Vincenzo Vicky sera fixé sur son sort le 23 août prochain. En attendant, il reste en prison. Première audience ce matin en France pour l'activiste italien. L'homme de 46 ans a été arrêté la semaine dernière dans un petit village du Morbihan où il vivait sous une fausse identité depuis 8 ans. Condamné en Italie à 12 ans de prison pour des violences lors du G8 en 2001, l'Italie réclame son extradition. Une extradition à laquelle s'oppose un collectif de soutien à l'activiste. Un rassemblement avait lieu ce matin à Rennes. La police des polices saisit une nouvelle fois après une course-poursuite et des coups de feu à Draguignan dans le Var hier. Deux individus ont refusé de se soumettre à un contrôle de police. Ils ont pris la fuite. Échange de coups de feu. Les deux personnes ont été blessées.
France Inter, le journal de 13h. Frédéric Beniada.
Hong Kong, dans la crainte d'une répression violente de la Chine contre les manifestants pro-démocratie qui défient Pékin depuis maintenant plusieurs mois, des véhicules blindés chinois sont regroupés à Shenzhen, non loin de la frontière du territoire autonome de Hong Kong. La Chine qui durcit le ton encore un peu plus après le passage à tabac de deux Chinois du continent hier dans l'aéroport, elle dénonce des actes de quasi-terroristes. Elle est considérée comme l'une des protagonistes de l'affaire Epstein. L'enquête pour trafic sexuel dont faisait l'objet l'homme d'affaires américain se resserre autour de l'une de ses plus proches amies, une certaine Ghislaine Maxwell. C'est l'une des filles du magnat de la presse Robert Maxwell. Elle est soupçonnée d'avoir participé ou organisé un réseau international d'exploitation sexuelle de jeunes mineurs pour le milliardaire. Son portrait à Washington est signé Gregory Phillips.
Ghislaine Maxwell, 57 ans, est une figure éminente de la jet-set britannique. Elle est la 9e fille du défunt magnat de la presse Robert Maxwell. Cette femme a été dans un premier temps la petite amie de Jeffrey Epstein avant de devenir son assistante personnelle. Et son nom apparaît donc dans les 2000 pages de documents d'enquête que la justice américaine a rendu public la semaine dernière. L'une des victimes présumées d'Epstein accuse Ghislaine Maxwell de l'avoir recrutée alors qu'elle n'avait que 15 ans et qu'elle travaillait pour l'été au vestiaire de la résidence de Donald Trump en Floride, à Mar-a-Lago. Recrutée pour des massages qui ont, affirme-t-elle, débouché sur une agression sexuelle puis un viol, Maxwell faisait office de rabatteuse, dit-elle, pour le riche financier. Ghislaine Maxwell n'a jamais été inquiétée dans ce dossier. Elle vit entre Londres et New York, mais personne ne sait où elle se trouve en ce moment et elle devrait sans aucun doute intéresser les justices à la fois américaines et britanniques.
À New York, le directeur de la prison où le milliardaire s'est donné la mort a été muté et deux salariés ont été suspendus. Première sanction, en attendant les résultats de l'enquête du FBI sur les conditions dans lesquelles le milliardaire s'est suicidé. En France, d'autres personnalités pourraient être inquiétées par la justice, dont Jean-Luc Brunel, patron d'une agence de mannequins. Le parquet de Paris procède toujours à des vérifications avant de décider ou non de l'ouverture d'une enquête. Dans une moindre échelle, Placido Domingo est à son tour accusé de harcèlement et d'agression sexuelle, le ténor mis en cause par une dizaine d'artistes féminines. Elles évoquent des mains baladeuses, des baisers forcés et des coups de téléphone nocturnes. Leur carrière aurait été pénalisée pour avoir refusé les avances du chanteur lyrique. Une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration ouverte à Paris après la disparition hier en Malaisie du corps de Nora Quarin, le corps de la jeune franco-irlandaise retrouvée dénudée dans un ravin 10 jours après sa disparition au sud de Kuala Lumpur. Sa famille a décidé de porter plainte contre X. L'appel à l'aide de la Grèce à l'Union européenne face à l'incendie qui ravage l'île de Bé au nord d'Athènes. Le feu attisé par des vents violents et des températures élevées ravage une réserve naturelle. 4 villages et des centaines d'habitants ont dû être évacués. En Afrique du Sud, la tuberculose est toujours la maladie qui tue le plus, avec 330 victimes quotidiennes. Et ce sont à présent les animaux sauvages qui contractent la bactérie de la tuberculose humaine. Ce fut le cas d'un éléphant retrouvé mort dans le parc Kruger, le plus grand du pays. Depuis, les autorités sud-africaines sont en alerte et procèdent à une série de tests sur certains des 20 000 pachydermes qui composent le parc. Reportage de Noé Ochebaudin.
L'hélicoptère du parc Kruger vient d'anesthésier un jeune éléphant. L'opération va prendre 1 heure. La vétérinaire Michelle Miller procède à une bronchoscopie grandeur nature. Selon le docteur Peter Buss, l'inconnu subsiste sur le comportement de la bactérie chez un éléphant de 6 tonnes.
On n'a pas encore d'idée claire là-dessus, donc c'est peut-être un seul éléphant qui a été contaminé. Il y a certaines espèces qui sont exposées à la bactérie, mais qui sont très résistantes, donc elles ne contractent pas la maladie.
Les autorités sud-africaines s'interrogent encore sur la façon dont la tuberculose a fait son entrée dans le parc, la vétérinaire Michelle Miller.
Il y a plusieurs possibilités. Ce sont peut-être des déchets laissés par les braconniers ou alors des déchets laissés par des touristes.
Pour l'instant, hélas, pas de traitement miracle. Michelle Miller utilise les mêmes produits que pour les humains.
C'est un traitement de 15 mois et administré quotidiennement, mais c'est vraiment difficile et très cher, environ 60 000 dollars par éléphant.
Les autorités sanitaires redoutent une bombe à retardement car la période d'incubation de la tuberculose est de 10 ans chez les éléphants. Johannesburg, Noé Ochebaudin, France Inter.
Et puis c'est la sortie cinéma du jour, Once Upon a Time in Hollywood. Le dernier, Quentin Tarantino, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio réunis pour un hommage émouvant au cinéma de la fin des années 60. Pour préparer Il était une fois à Hollywood, dont l'histoire renvoie à l'assassinat de l'actrice Sharon Tate par des disciples de Charles Manson, Quentin Tarantino a fait appel à un passionné qui organise des visites guidées de la face sombre d'Hollywood. À Los Angeles, Loïc Piala.
Son petit musée des chairs disparues se trouve juste en face du Forever Cemetery, le cimetière le plus célèbre d'Hollywood.
Tous les objets ici sont liés à de terribles événements.
Scott Michaels s'attarde sur ses articles les plus rares, la voiture dans laquelle est morte l'actrice Jane Mansfield ou une mèche de cheveux de Charles Manson. Il connaît l'affaire Sharon Tate Parker, alors Quentin Tarantino l'a contacté.
Il voulait des détails super précis. Après avoir passé un peu de temps avec lui, je me suis rendu compte que c'était autant un geek que moi.
Le réalisateur a par exemple découvert qu'une chanson du groupe Paul Revere and the Raiders avait été composée sur le piano situé à quelques mètres de l'endroit où Sharon Tate a été assassinée. Et ce morceau, Good Thing, se retrouve sur la bande originale de Il était une fois Hollywood. Pour Scott, assister au tournage a ressemblé à un voyage dans le temps, direction le Hollywood de 1969.
Tarantino a immortalisé cette affaire. Tarantino, c'est comme Hitchcock. Dans 100 ans, on étudiera encore les films de Hitchcock, pareil avec Tarantino.
Mais pas la peine de chercher sur Cielo Drive la maison de Leonardo DiCaprio dans le film, elle n'existe pas. Et celle de Sharon Tate a été détruite en 1993. À Los Angeles, Loïc Pialat pour France Inter.
À présent, la météo bosse sur le sud, mitigée sur le nord, les précisions d'Elodie Calac.
La perturbation progresse de la Bretagne vers les pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, avec des pluies irrégulières, du vent, des pluies aussi vers Poitou-Charentes, la Touraine, la région parisienne en fin de journée. De l'Aquitaine vers le Berry, le Grand Est, c'est agréable, de bons moments de soleil et des passages nuageux. Des Pyrénées vers la Méditerranée, le Massif central, la Bourgogne et la Franche-Comté, là c'est très ensoleillé. Attention, le vent reste marqué sur le sud-est, des rafales jusqu'à 60 à 70 km à l'heure pour Mistral, Tramontane, vent d'ouest du Var à la Corse. Cet après-midi, on s'approche des moyennes de 18 à 21 degrés près de la Manche, 21 degrés à Nantes, 24 à Paris, à Besançon, 26 à Bourges et à Lyon, 28 degrés à Toulouse, 31 à Marseille et 32 à Montpellier. Demain, toujours beaucoup de soleil et du vent sur le sud-est. Ailleurs, une matinée bien nuageuse avec quelques averses, mais plus éclaircies l'après-midi.